C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Publication d'une étude ce matin par l'Université de Montréal concernant l'impact de la violence sur les écrans, donc des scènes violentes, sur des enfants d'âge préscolaire et qui vont vivre les conséquences de ces images-là plus tard, donc quand ils atteignent, par exemple, l'adolescence. Linda Pagani est l'auteur principal de l'étude. Elle est professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheuse à Sainte-Justine. Madame Pagani, bonjour.
Bonjour.
D'abord, dites-moi, qu'est-ce que vous avez cherché à mesurer? Puis deuxièmement, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Bien, nous avons, c'est une cohorte de naissance millénaire. Les enfants sont nés en 97, entre le printemps 97 et le printemps 98. Et c'est une belle cohorte de garçons et filles grâce à l'Institut des statistiques du Québec. Nous avons eu ces données-là et le fait, c'est qu'ils sont nés, puis on les suit. C'est une expérience naturelle parce que parmi cet échantillon de 2000 enfants, il y en a qui regardent la télé violente, il y en a qui ne regardent pas la télé violente. Et c'est, il y a une variation naturelle. Et donc, entre 3 ans et 4 ans, on a regardé ceux qui... On a eu des données sur ceux qui visionnaient des choses plus violentes à la télé versus ceux qui ne visionnaient pas les choses violentes. Et c'est intéressant parce qu'à cette époque, c'était juste la télé, l'écran majeur. C'était l'écran principal. Alors, c'est pas compliqué comme aujourd'hui. Et donc, on a pu, 10 ans plus tard, regarder ces enfants. On a des données auto-révélées par les enfants eux-mêmes. On a des données observées par leurs enseignants. Puis, on a vu qu'ils ont, ceux qui ont visionné plus de violence étaient plus à risque 10 ans plus tard, d'avoir des difficultés psychologiques et scolaires.
OK, je veux bien comprendre. Dans le fond, vous dites, quand on expose des enfants de 2, 3 ans, 4 ans à des scènes de violence régulières là, sur le petit écran, ça peut être une émission de télé, ça peut être un film, là, ça a un effet jusqu'à l'adolescence, ou en tout cas qui se démontre à l'adolescence par des problèmes scolaires, par des problèmes quoi, d'anxiété, d'angoisse, de détresse psychologique?
Oui. Et c'est parce qu'on débute avec... On va débuter avec des impressions de comment les interactions sociales se passent. Parce que rappelons-nous que la période préscolaire est une période où l'enfant n'a pas la capacité cognitive de différencier entre la vraie vie et la vie sur l'écran. Et aussi, l'enfant est très impressionnable par son environnement. Alors, il y a beaucoup de l'apprentissage social qui se passe, l'apprentissage du comportement et la socialisation. Donc, ce qui arrive, c'est que la façon qu'il apprend, qui est plus agressive, les interactions qu'il observe, il pense que ça se passe comme ça. Alors, tranquillement, il va intégrer ça. Ça va infiltrer sa personnalité, sa façon de s'insérer dans son environnement. Et tranquillement, il va grandir avec ses impressions. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette génération-là, qui est née entre 97 et 98, et c'est encore pire aujourd'hui, a vécu beaucoup de messages qu'il y a du danger autour. On a vécu le terrorisme, on a vécu la pandémie, on a vécu tout ça. Et en plus, aux écrans, des scènes violentes, tout ça, ça fait quelqu'un de très agressif.
Mais Mme Pagani, concrètement, c'est pas le bébé de 1 an, 2 ans ou 3 ans qui contrôle la télé, qui contrôle l'écran. Ce sont les parents qui permettent à l'enfant de voir ces images-là.
En réalité, aujourd'hui, et comme toujours, les parents sont très occupés et ça a l'air très bénin. La télécommande est là et les parents ne réalisent pas que l'enfant, une des premières choses que l'enfant apprend, c'est l'utilisation d'une télécommande. Et donc, souvent, les parents ne sont pas là à voir la sélection de ce qu'ils vont visionner. C'est ça le problème. Je pense pas que c'est pas qu'on mette nos enfants devant la télé exprès, là. Je ne suis pas en train de culpabiliser les parents. C'est juste, je veux les sensibiliser au fait que au préscolaire, c'est un moment critique dans le développement où on apprend les interactions sociales. Si on veut élever un enfant diplomate, si on veut élever un enfant qui s'entend avec le monde, qui est très important aujourd'hui, comme toujours, c'est important d'essayer de surveiller ce que nos enfants regardent, nos jeunes enfants.
Ouais, je comprends qu'il faut surveiller, mais parfois comme adulte, on peut se faire avoir. Je pense que vous dites là, ou je l'ai lu ce matin, qu'on peut dire à un enfant, on va regarder ensemble un film de super-héros, en disant, ben c'est positif, mais même à l'intérieur de ce genre de film, il y a quand même des scènes de violence.
Oui, et des films de super-héros ne sont pas appropriés pour un enfant entre 3 et 4 ans. Absolument non. Simplement parce que à cet âge-là, ils ne sont pas capables de distinguer entre la réalité et ce qu'ils visionnent. Donc, c'est mieux d'attendre un petit peu plus, après la maternelle.
OK. De façon très pratique, un enfant, on devrait attendre à quel âge avant de lui donner accès à des écrans, que ce soit d'ordinateur ou de télévision?
L'ordinateur, télévision, écran, selon l'OMS, moi je suis d'accord avec l'OMS que ça devrait être après 3 ans. Et la raison pour ça est très simple. Entre 0 et 3 ans, l'enfant va apprendre toutes sortes d'habitudes de vie, habitudes d'interaction, habitudes d'être curieux, d'activité physique, habitudes alimentaires, toutes sortes de choses. Parce que ça, c'est les premiers 1500, les premiers 1000 jours de sa vie sont très, très importants. Donc, ce qui arrive, c'est que si on met des écrans là-dedans, l'enfant va apprendre à faire moins d'efforts cognitifs. Et aujourd'hui, parlons avec n'importe quelle enseignante, il y a beaucoup d'enfants, on parle d'une majorité importante, qui ont la difficulté à faire des efforts cognitifs soutenus. L'effort soutenu est très important à l'école. L'effort soutenu dans une conversation. On veut que de 0 à 3 ans, que les enfants apprennent à jouer, à interagir, à s'auto-diriger eux-mêmes, à trouver. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est que on pense que nos enfants vont s'ennuyer. Alors, souvent, les parents vont leur donner leur téléphone, vont donner une tablette, vont les mettre devant un écran pendant qu'ils font quelque chose, au lieu de laisser l'enfant trouver quelque chose à faire. Trouver un stylo, trouver un crayon, trouver un livre à regarder, bricoler quelque chose, et faire de l'activité physique dehors dans la cour. C'est ça.
Okay, mais
c'est ça qu'on a comme problème.
Mais vous êtes non seulement claire et précise, mais je pense que j'entends, là, je devine la réaction des parents qui disent « on n'a jamais pensé à ça, on pense qu'il faut toujours occuper les enfants, qu'il faut prendre charge de leur agenda ». Puis un enfant qui a l'air assis à pas faire grand-chose et qui s'ennuie, puis là, on se précipite pour trouver une tablette ou faire quelque chose avec.
C'est exactement ça, parce que rappelons-nous que si on prend le principe qui est très, très vrai, qu'on apprend les habitudes de vie très tôt dans la vie, quand on est comme trotteur, on pense que notre environnement, c'est ça. On débute comme ça, puis ensuite, il y a toutes sortes d'habitudes qu'on se demande où est-ce qu'on a appris ces choses-là. Et donc, quand on est ennuyé, si on est quelqu'un qui a toujours ben autodirigé, c'est cette personne-là qui va être toujours bien occupée au travail, parce que les trajectoires du développement vont continuer. Hein? La personne va aller dans le marché du travail, la personne va être un citoyen à la maison éventuellement. C'est ça. On veut des gens qui sont actifs dans leur vie. Qu'on mange à la table sans un écran, etc. Donc, on revient au fait que la télé violente est partie des écrans et la télé, en général, avant l'âge de 3 ans, n'est pas une bonne idée. Et je ne veux pas culpabiliser les parents, mais les enfants doivent, et une partie du développement, une partie très importante, d'apprendre, ben, qu'est-ce que je fais avec mon temps? Ben voilà, il y a des crayons, tiens, je vais faire ça. Il y a des ciseaux, comment j'utilise des ciseaux? C'est ça, l'apprentissage.
Merci.
Au lieu de les mettre toujours devant un écran.
Exact. Merci beaucoup, Mme Pagani.
Merci à vous et merci pour l'attention que vous avez portée à l'étude.
Merci beaucoup. Linda Pagani, professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheuse à Sainte-Justine.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, il y a un autre procès qui a attiré notre attention. Yannick Giguère, qui est un photographe. Il est accusé d'agression sexuelle sur une amie et l'avocat de la défense, Maître Juillet, plaide que son client souffre de somnambulisme sexuel. Bref, qu'il est en fait ce qu'on appelle la sexomnie et qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça s'est déjà vu? J'en parle avec Dr Marie-Ève Coton, qui est médecin psychiatre. Dr Coton, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est d'abord le somnambulisme sexuel?
C'est ce qu'on appelle une parasomnie, c'est-à-dire ça fait partie des troubles où les gens ont des comportements, des actions pendant leur sommeil. Donc, certains vont marcher. On connaît le somnambulisme classique où les gens vont parfois sortir de leur maison ou se promener dans leur maison. Bon, là, on parle de comportements sexuels qui vont de l'exhibitionnisme à des attouchements jusqu'à des pénétrations complètes. Donc, c'est décrit, ça a été décrit, c'est reconnu comme une condition, un trouble du sommeil, là, si vous voulez, depuis 2015. C'est par contre une condition très rare et dans la littérature, là, pour la psychiatrie légale, on met en garde effectivement que ça risque d'être une condition invoquée comme défense et qu'il y a des, il y a, si vous voulez, faut avoir une certaine rigueur pour différencier ce qui pourrait être une simulation de cette condition-là pour s'abstraire à des conditions, à des conséquences, si vous voulez, légales à nos actions versus la condition qui existe, qui a été documentée et qui doit être documentée si quelqu'un en souffre pour déterminer l'intention coupable ou pas.
OK, mais comment on fait justement pour documenter que c'est pas là une tentative d'échapper à la justice, d'inventer une histoire, puis que c'est un vrai problème que le monsieur a?
Ben, c'est là où c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de test diagnostic hors de tout doute. C'est-à-dire qu'on peut faire des enregistrements d'électroencéphalogramme pendant que quelqu'un dort. Et si on attrape une crise, là, on va pouvoir voir qu'il a des comportements sexuels alors que selon son électroencéphalogramme, il est en mode sommeil. Mais on peut faire le test à quelqu'un. S'il n'y a pas de crise pendant le test, ben, on peut pas le confirmer. Donc, c'est pas simple. À l'histoire, il y a des éléments où, selon, là, il y a eu un article publié là-dessus dans The Journal of the American Academy of Psychiatry and Law, justement parce que c'est une défense de plus en plus invoquée, où on disait à l'histoire, voici des exemples de ce qui pourrait être inverse à une vraie condition. Et il y a entre autres le fait d'avoir des comportements qui minimisent l'identification ou qui ne sont pas des comportements d'automatisme, comme par exemple porter un préservatif. Et ça, ça a retenu mon attention parce que dans les articles sur ce cas-là, on mentionne que monsieur avait effectivement mis un préservatif avant les actes. L'autre chose qui est un élément où on dit, bon, faites attention pour faire la différence entre le vrai diagnostic et une simulation, c'est qu'on s'attend à ce que quelqu'un qui a des épisodes comme ça, puis qui a des conjointes ou des partenaires qui l'ont avisé de ses comportements avant, ben on s'attend à ce qu'il soit inquiété de ça, qu'il aille voir un médecin et qui ait des comportements responsables, à savoir, ben ça peut m'arriver, je dois aviser les femmes ou les gens qui sont accessibles autour de moi. Et encore une fois, dans le cas qui nous occupe, je trouvais ça intéressant, c'est que il y aurait une ancienne conjointe de monsieur qui aurait témoigné avoir vécu 15 à 20 épisodes du genre dans le passé, et c'est ce qu'il invoque. Par contre, c'est que à ce moment-là, on se demande pourquoi il a dormi avec une amie sans l'aviser de ça. Donc, c'est un peu les contradictions qui sont à soulever. Et qui peuvent, tu sais, dans le sens où ce que la littérature scientifique dit, c'est qu'on s'attend que quelqu'un qui s'aperçoit de ça, qui a le feedback de ça comme d'une conjointe ou de quelqu'un qui l'avertit, qui ait des comportements responsables et qui s'inquiète de ça, qui aille chercher de l'aide médicale pour protéger les gens autour de lui. Donc, mais, ça, c'est un autre élément.
Mais, docteur Coton, est-ce que ça pourrait dire que quelqu'un comme celui dont on parle, le photographe, pourrait être déclaré non criminellement responsable puis doit aller en traitement ou il est acquitté?
À mon avis, à ce moment-là, c'est qu'il est déclaré non criminellement responsable. C'est sûr que je ne suis pas un juriste.
Non, je comprends, mais...
Mais c'est ce que j'ai compris de la défense, c'est-à-dire que à ce moment-là, c'est que on dit que le comportement était dû à un trouble mental. Puis la sexomnie, c'est reconnu dans le DSM-5, là, ce qui est le document qui répertorie les troubles mentaux. Donc, c'est une condition qui en fait partie depuis 2015.
Et est-ce que ça se traite ou si la personne doit vivre avec ça?
Il peut y avoir des médicaments qui sont tentés, qui changent un peu la structure du sommeil et qui peuvent diminuer l'occurrence de ça, mais ça ne fonctionne pas nécessairement à 100% avec tout le monde. Donc, il doit y aussi y avoir des mesures de sécurité, si vous voulez. Là, ça peut être de ne pas partager un lit avec un conjoint, avertir le conjoint et lui dire comment le réveiller, là, parce que ça peut être, si on réveille quelqu'un dans un épisode de somnambulisme, c'est possible, mais ils peuvent être un peu plus difficiles à réveiller, donc faut comme insister, faut soit le brasser ou parler fort. Donc de si le traitement n'arrive pas à diminuer la fréquence des épisodes ou à les enrayer complètement, ben, il doit y avoir des comportements où on minimise le risque que ça mène à des agressions, si vous voulez. Là.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Dr. Coton.
À vous aussi.
Merci, Dr. Marie-Ève Coton, qui est médecin psychiatre. Parlait de cette cause, donc, de sexomnie. Et c'est vrai que c'est reconnu là dans la Bible des psychiatres. Puis il y a des cas, au mois de juin, il y a un père de Gatineau qui a été déclaré non criminellement responsable du viol de sa fille. En plaidant ce genre d'argument. Mais par contre, il y a quelques années, il y a un père belge qui avait plaidé ça. Agression sur sa fille. On lui a donné le bénéfice du doute. Il y a eu un appel et finalement, il a été condamné à 4 ans de prison. Alors, on voit que c'est pas simple, là. C'est pas facile à trancher.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Vous allez vous souvenir que depuis quelques années, on a appris à découvrir celui qu'on appelle le gars du lac, Olivier Jean. D'abord, on a été séduit par les produits, on a été séduit par sa mise en marché, puis on a décidé, toute l'équipe, de lui donner un coup de pouce. Ce qui a fait que le système informatique de chez Maturin a explosé à quelques reprises. Et le 23 mars dernier, malheureusement, il a été grièvement blessé dans l'explosion à Sherbrooke, de l'endroit où il travaillait. Ça a été évidemment sur le plan physique, sur le plan psychologique, une épreuve, on peut comprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'il va mieux. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est avec nous en studio ce matin. Bonjour Olivier.
Bon matin, merci de me recevoir, c'est très très gentil.
Comment tu vas d'abord?
Ça va bien, c'est toujours difficile à répondre comme question. C'est sûr que, considérant que j'ai sorti d'un bâtiment qui a explosé avec une température ambiante à 1000 degrés, je suis très chanceux d'être là aujourd'hui. Je suis en vie, donc ça va bien, mais clairement, j'ai des blessures physiques. J'ai les mains qui sont encore douloureuses. J'ai perdu de l'amplitude, j'ai de la fatigue physique. J'ai perdu beaucoup de masse musculaire, etc. Mais somme tout, ça va bien. Je suis capable d'avoir un semblant de vie normale, si on veut. Mais tu sais, je porte des vêtements compressifs, mais la tête va bien. Je dirais qu'en partant, quand le mental va bien et on est bien entouré, c'est déjà un très bon début.
As-tu un souvenir de ce qui s'est passé? Gardes-tu des images de cette journée-là?
Moi, j'ai quand même des petits blancs, mais grosso modo, je me souviens que ça, quand ça a explosé, que j'ai revolé. J'ai regardé autour de moi puis je voyais de la lumière. Il y avait comme le toit de l'édifice qui était comme tombé à moitié. Il y avait une partie qui était rattachée encore à l'édifice puis l'autre partie qui se faisait comme une rampe, si on veut. Donc, j'ai décidé d'aller vers là. Fait que je me suis ramassé sur le toit de l'immeuble. Et il fallait que je sorte de là. Mais j'étais rendu comme en sous-vêtements. Tous mes vêtements avaient brûlé. Je me souviens aussi que j'avais les cheveux longs dans ce temps-là. Mes cheveux étaient brûlés à moitié aussi. Et que là, il fallait que je sorte du bâtiment. Donc, je me suis tiré en bas du toit dans des débris. J'étais chanceux quand même. Ce qui est drôle, c'est que tous mes vêtements, tout avait brûlé, mais celui aussi, mais il me restait une semelle avec un morceau de tissu qui tenait ma semelle. Donc, j'ai pu quand même sortir des débris sans me blesser les pieds. Donc, j'ai été chanceux. Ouais. Après ça, je me souviens qu'on a attendu l'ambulance. Ils sont venus nous chercher, nous emporter à Sherbrooke. Puis là, ça commence à être vague un peu. Là, ils m'ont mis dans le coma artificiel. Là, la famille s'est toute réunie. T'sais. Autant mes beaux-parents à Québec sont montés à Sherbrooke. Mes parents sont venus, ma sœur. Puis là, mon corps commençait vraiment à gonfler, si on veut. Là, je perdais beaucoup de liquide corporel. Puis à ce moment-là, ils savaient pas que j'allais rester en vie. Là. Les médecins disaient, là, allez dire au revoir à votre garçon parce que ça se peut que c'est la dernière fois que vous le voyez. J'étais brûlé comme un cochon, si on veut. Là. J'étais calciné noir. Mes parents ils m'ont tout dit adieu sur la civière. Puis là, je suis parti vers l'étage des Grands Brûlés à Montréal. Puis ils savaient pas si j'allais toffer à run, si on veut. Fait que j'ai été un bon 3-4 jours entre la vie et la mort. Puis après ça, ben c'était mes blessures physiques qu'on savait pas comment que ça allait évoluer. J'allais-tu perdre un oreille, mon nez, tu sais, je suis quand même chanceux, je suis pas défiguré, là, j'étais extrêmement chanceux, donc, tu sais, je suis très reconnaissant de toute l'équipe médicale, tu sais, autant Sherbrooke, Montréal, Villa Medica, CRE, tu sais, c'est grâce à ce monde-là que je suis en vie aujourd'hui, puis je suis très, très chanceux. Là.
Est-ce que tu sais ce qui s'est passé cette journée-là?
Je le sais pas, on le sait que c'est du propane, tu sais, mais on sait pas c'est quoi la cause. J'attends encore la CSST, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais j'ai aucune idée.
Tu parles des blessures physiques parce que c'est quand même une très longue convalescence, puis encore aujourd'hui, t'as des séquelles de ça. Est-ce que ce sont les séquelles physiques qui sont les plus douloureuses ou les séquelles morales, psychologiques? Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer?
Je suis chanceux, comme je me suis réveillé, puis j'ai été quand même positif. Tu sais, je me suis pas pitoyé sur mon sort, ou j'étais pas fâché, ou je trouvais pas ça injuste. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu bon moral depuis le jour 1. Mais c'est plus la douleur physique, tu sais. Ce qui est long avec les grands brûlés, ben, c'est que c'est douloureux très longtemps. Tu sais, on parle d'un an et demi, deux ans et demi, le processus de guérison. Donc, c'est extrêmement long, mais la chance qu'on a, c'est qu'après, on est supposé un peu revenir à la normale, tu sais. Je pense pas être indemne après ce que j'ai vécu, tu sais. Je vais probablement avoir des douleurs quand même aux mains ou, tu sais, on le sait pas ce qui va arriver, tu sais. On n'a pas de boule de cristal, fait que c'est vraiment au jour le jour. Mais je te dirais que, ouais, les blessures physiques, ça, c'était très douloureux, là. Les plaies ouvertes partout, les vêtements compressifs. Se faire débrider sur place, enlever la peau morte, dans ta salle d'opération avec des pinces à cils, puis c'est pas des beaux souvenirs, mais
c'est sûr.
Ouais.
Ce qui nous avait beaucoup séduit dans toute ton aventure, c'est ta capacité d'entrepreneur, puis de, comme on dit, mettre les bouchées doubles, puis on avait décidé, toute l'équipe, de te donner un coup de main.
C'est un sacré coup de main, oui.
C'est un sacré coup de main. Et ça a parti tout doucement, tu étais pas mal seul, ou en tout cas presque. Tes parents se sont impliqués, puis là, évidemment, on connaît la suite, puis tu avais atteint quand même des niveaux de vente assez intéressants. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que ça existe encore? Là, c'est le temps des fêtes. Est-ce qu'on peut commander des produits?
Ouais, ben c'est ça. J'ai été assez, j'ai été patient avant de relancer quoi que ce soit. Mais mes parents ont décidé de prendre l'entreprise en main. Moi, avec ma condition, je suis pas trop en mesure d'aller dans les cuisines. Donc, Ils ont décidé de reprendre la production. J'ai deux employés qui ont décidé de venir aider. Mais sûr qu'on, il a fallu se relocaliser. Là, le bâtiment est perte totale. Fait que c'était trouver une nouvelle cuisine qui était difficile. Mais depuis début septembre, on a une à deux journées par semaine qu'on est capable de faire de la production. Donc, sûr, les quantités sont limitées, mais il y a des produits, comme je disais, sur maturin.ca, les produits sont encore disponibles. Sûr qu'on faut pas s'attendre à la même capacité de production dans les années dernières, mais c'est ça. Je suis très chanceux que mes parents aient pris la relève quand même. Si on voulait quand même d'être là encore, tu sais, que les gens peuvent se procurer des produits. Là, je faisais la tourtière, mais je faisais des pogos aussi. Puis là, les pogos, je m'en fais énormément demander, mais j'ai pas réussi encore à trouver du traitant. Là, j'étais en train de faire des tests, mais je sais que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Là.
As-tu l'intention, est-ce que c'est l'objectif de retrouver la cadence que tu avais avant, puis peut-être même prendre de l'expansion?
Oui, absolument. L'objectif en ce moment, c'est de se rendre à Noël. On va faire ce qu'on peut pour à Noël. Après ça, on va s'asseoir en janvier, on va regarder qu'est-ce qu'on fait. On va être à la recherche d'un local. Est-ce qu'on va continuer dans notre cuisine qu'on est là? Mais on prend une bouchée à foie, puis on pense à Noël pour cette année, puis on verra ce qui va se passer par la suite. Mais ça n'a jamais été dans mes pensées, tu sais, de lâcher. Ou si c'est quelque chose que... Ben, je vous remercie vraiment, là, parce que c'est grâce à vous que j'ai envie aujourd'hui, puis c'est pas peu dire, c'est vraiment grâce à vous que ça m'arrive, mais tu sais, j'ai jamais voulu arrêter, même après l'accident. J'aime tellement ce que je fais qu'absolument, après Noël, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines années.
Puis tes parents, ce sont des bons employés?
Ouais. Ouais. Quand même, pour leur âge, ils sont en forme, parce que c'est quand même pas évident.
Est-ce qu'ils sont
de l'autre côté, là.
Je te dis qu'ils sont en arrière, puis t'écoutes, là.
Est-ce qu'ils ont l'âge à Paul et à Alain?
Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille dans un environnement qui est à 4 degrés. Fait que, tu sais, passer des 8 heures au froid, c'est quand même difficile. Sur place, ça n'a pas bougé. Tu sais, c'est quand même difficile physiquement. Donc, je leur lève mon chapeau. Je suis très chanceux. Pas juste pour la tourtière. Je te dirais que j'étais chanceux de les avoir, puis de la famille, dans tout ce qui m'est arrivé, parce que j'imagine pas des gens vivre quelque chose, tu sais, un drame comme ça, sans être bien entouré. Ça doit être épouvantable.
Tellement content que ça va mieux pour toi, tellement Merci. Content que tu sois avec nous. Est-ce que tu penses que le système de maturin.ca est capable de prendre la demande ce matin?
Oui. Je pense qu'ils ont prévu le coup, fait que okay. leur plateforme est supposée de suivre la parade, mais j'invite les gens à y aller absolument, là, parce que, comme je disais, la quantité est limitée. Donc, on va faire ce qu'on peut d'ici Noël, mais...
OK, on va tester le système, puis je vais demander à mes auditeurs...
C'est vrai?
de pouvoir... Puis il y a d'autres produits sur maturin.ca, mais pour Absolument. Les produits du gars du lac, ben vous pouvez y aller. Puis soyez patient, ça se peut que ça y ait des petits problèmes.
Pas juste pour tester, parce qu'elle est vraiment bonne.
Elle est excellente. Oui, je suis une fille du Saguenay, là, oui. de Chicoutimi-Nord, puis ça goûte la vraie bonne tourtière. Pas le pâté à viande montréalais. Là.
Mais c'est ça qui est difficile. faire une bonne tourtière commercialement, parce que c'est sûr que c'est pas pareil qu'aller faire à la maison. T'sais, les gens disent toujours, ben nous on met de la viande sauvage, des trucs comme ça, mais quand tu fais des produits commerciaux, tu as des règles à suivre. Donc, je pense que pour une tourtière du lac Saint-Jean commerciale, je pense qu'on... C'est la meilleure, je pense, aussi.
The best, comme on dit. Merci beaucoup, Olivier.
Ça fait plaisir. Merci à vous autres.
Je rappelle, le site, c'est maturin.ca. Si c'est difficile d'accès dans les prochaines minutes,
c'est
notre faute. Bon, ça y est, c'est difficile. Vous pouvez étaler ça un peu dans la journée puis le lendemain. Très content de te voir.
Je vole un petit deux secondes. Oui. Puis je sais que je vous remercie tantôt, mais je vais vous remercier. Je sais que vous n'aimez peut-être pas ça vous faire remercier, mais vous avez été très gentil depuis 2 ans. Puis même pendant l'accident, je vous remercie pour le temps que vous avez pris. Puis je le dis du fond du cœur.
Ça nous a fait tellement plaisir. Merci, Olivier. Bonne chance.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Bonjour, Garou.
Bonjour, Paul.
C'était dans le jardin secret depuis combien de temps, ça, cette passion pour Jourdassin?
Depuis le début de la passion de la musique, quelque part. Parce que depuis que je suis tout petit, mes parents écoutent ça, puis on chante ça en famille, puis on aime Dassin. Il fait partie de nos vies depuis toujours. Puis au fil des années, il est toujours là, mais j'ose pas trop l'avouer pendant un bout de temps.
Pourquoi?
Mais c'est ça, je pense que c'est ça pour plusieurs personnes. Tu sais, il y avait... Dassin, c'est d'excellentes chansons, mais écrites de façon très simple. Comme il y a ce côté un peu ludique aussi... drôle de plusieurs chansons, qu'on pense à sa première dans le genre qui était les Dalton, mais on parlait du petit pain au chocolat,
oui.
Zay, 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 puis il y a tout, tout ce côté-là qui peut faire un peu quétaine, qui peut faire un peu simple, mais finalement, tu creuses un peu dans le texte, puis t'écoutes, c'est des mots simples, mais avec des grandes phrases au sens fort, tu sais. Puis là, c'est adolescent que je suis tombé dans une gang, puis je me suis rendu compte que tout le monde aimait Joe Dassin dans ce gang-là. On se l'avouait pas.
On l'a découvert progressivement, c'est ça?
Ouais, ben moi déjà tout petit, j'avais tout entendu parce que mes parents, ça jouait ça beaucoup dans la voiture.
Mais de savoir que d'autres a fait.
Que d'autres, ouais, c'est venu vraiment que je suis tombé dans une gang qui eux autres, ça l'était avoué. Là, je fais tout, waouh, je suis vraiment dans la bonne gang là.
Mais est-ce que tu sais pourquoi ça accroche autant?
Ben,
ce qui fait que et ça tourne encore aujourd'hui, là.
Ouais, à quel point, c'est ça, de génération en génération, ça se transmet. Je pense qu'il y a beaucoup... Bon, l'icône que c'est devenu, bon, la mort
fait peut-être partie
de ça aussi, mais avant ça, je veux dire, c'est surtout ses chansons, la façon qu'ils sont interprétées, sont très généreuses. Il donne les chansons au monde. Il fait pas de la musique pour lui, puis pour être une star. Lui, il a envie, c'est pas ça qu'il voulait faire dans la vie, puis il donne les chansons pour faire plaisir au monde. Il dit, une chanson, ça doit soulager. Il dit ça en entrevue, puis avec une espèce de bouille. Puis tu vois qu'il faisait tout pour faire le showman, pour que les gens soient heureux. Donc quand c'est généreux comme ça, ben c'est ça qui fait aussi qu'il va au-delà de la francophonie, puis qu'il devient très connu dans des pays non francophones.
Est-ce que tu as cherché à tout savoir sur lui? C'est-à-dire, comment il était reçu à l'époque, son père Jules Dassin, comment ça se passait, milieu intellectuel, politique. Est-ce que tu es allé fouiller pour voir un peu qui est le bonhomme?
Je suis allé fouiller, mais mon intérêt était pas dans le savoir, était plutôt dans le comprendre.
OK.
Puis ça se passait beaucoup en musique, mais c'est vrai que l'histoire est assez folle. C'est le grand-père qui part de l'URSS, qui se fait déporter, qui arrive à New York, puis on lui demande d'où il vient. Non, on lui demande son nom, puis il répond d'où il vient, parce qu'il parle pas anglais. Fait qu'il y a un problème de communication, fait qu'il répond Odessa, qui est une ville en Ukraine aujourd'hui. Puis en répondant à ça, le douanier, l'immigration, il écrit Dassin. C'est comme ça que naît le nom Dassin. Donc, il arrive d'Ukraine, il s'en va à New York. Finalement, le père devient très connu, Jules Dassin, comme cinéaste. Et puis, c'est lui qui part non pas à la conquête de l'Amérique, mais plutôt à la conquête de la France. Il s'en va, il repart de l'autre côté. Puis, c'est ça, c'est la France qu'il recherche. Puis, c'est Joe qui va devoir faire ses premiers pas, puis qui va avoir du mal, parce qu'on dit que c'est le fils de l'autre.
Tout le temps.
Ouais.
Comparaison qui, évidemment, peut être lourde à porter. Là.
Ben, qui peut être lourde à porter, mais bon, il finit par tailler sa place, puis le père Jules finit par être le père de Joe.
Est-ce que c'est le seul qui a occupé ton jardin secret, ou si t'avais d'autres chanteurs, chanteuses, ou pour qui t'avais une passion, puis ce qui était peut-être pas nécessaire de partager tout de suite?
Bon, tu veux que j'avoue tout, là?
Oui, c'est au confessionnal.
je vais avouer que dans les rencontres qui m'ont le plus impressionné, j'ai fait des super belles rencontres avec des artistes, des idoles dans ma vie, mais pour retourner à la jeunesse, les deux rencontres qui m'ont le plus déstabilisé, c'est le Salvatore Adamo et Nana Mouskouri.
Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé?
Parce que, encore, c'était l'enfance. Pour moi, ça existait pas vraiment, ces gens-là. C'était pas incarné dans un être humain. Puis il avait comme presque pas le droit d'être encore vivant, quelque part. Mais, parce que c'est dans ta tête de petit gars. Puis plus tard, ben je me retrouve à chanter avec Adamo, puis je me retrouve à chanter avec Nana Mouskouri. Ça m'a vraiment impressionné. Quand pourtant j'ai chanté avec Sting, avec George Harrison, puis avec plein de monde, tu sais, qui pour moi sont des énormes.
Ces deux-là, c'était particulier.
Ces deux-là, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai tout avoué, ça y est.
Vas-tu faire un album sur Salvatore Adamo?
Ou sur Nana Mouskouri, encore mieux.
Encore plus. Il y a évidemment un son très country avec ces chansons-là, et tu disais dans une entrevue qu'en France, c'est pas une musique qui tourne beaucoup, en tout cas qui occupe beaucoup de place.
Ou c'est une musique qu'on encore
cachée,
c'est encore l'inavoué. Parce que quand on dit ça, même au Québec, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on fait de la country, mais qu'on veut pas dire le nom.
Pourquoi tu penses?
Parce que on associe ça, c'est perception is reality. C'est la perception qu'on prend des choses, puis on voit juste un chapeau de cowboy avec un ranch, puis si on n'aime pas cette image-là, on veut pas s'associer à ça. Quand pourtant, la country, c'est devenu un type de musique qui qui part encore une fois d'Afrique quelque part. Puis c'est ça, le blues, ça vient de là, tout ça. Puis là, c'est toutes les musiques qui finissent par s'amalgamer. Et quand les Français me disent que la country, ça marche pas du tout, je leur dis, ben, écoutez Francis Cabrel comme faut, il me semble que ça marche en maudit ici, tu sais.
C'est un bon exemple.
Quelque part, c'est ça. Mais c'est encore juste une question de perception qu'on a, ce qui est complètement absurde.
Faut que tu t'expliques aux gens, quand t'as proposé à Robert Charlebois de faire partie de l'album, sa première réaction.
Ben c'est sûr que Robert, il a pas compris, parce que on est de plus en plus proche avec Robert. Ça fait plusieurs années qu'on se côtoie de plus en plus, puis on aime se voir, puis on se fait du bien, puis on se fait des jams ensemble, on a souvent soulevé le fait que ça serait le fun de collaborer sur quelque chose, immortaliser quelque chose à un moment donné, mais il s'attendait pas du tout à ce que je propose de faire un duo sur une chanson de Dassin, en plus qui est beaucoup moins connue. Ça s'appelle Les plus belles années de ma vie, qui est une adaptation de Rock and Roll, I Gave You All the Best Years of My Life. Et là, je lui fais jouer ça, il la connaît pas, il dit, pourquoi un album de Joe Dassin, je comprends pas. Puis finalement, j'ai fait écouter la chanson en français, en anglais, puis il me dit, je vais réfléchir, mais après ça, il m'appelle et dit, c'est écœurant, cette chanson-là, c'est donc ben bon, c'est Claude Lemel, c'est le meilleur auteur de l'histoire, puis ben, Robert Monnet m'a dit, tu devrais faire un album hommage à Claude Lemel. Ça avait pas la même résonance pour moi que l'album de Joe, mais ça a été le fun de le convaincre de ça, puis surtout que ça soit zéro stratégique, parce qu'au contraire, je partais avec deux prises et demie, là. Puis finalement, il a aimé la chanson, puis il a aimé l'idée qu'on fasse ça ensemble, puis c'est un vrai beau moment qu'on a vécu.
On va écouter quelques extraits de l'album, les gens vont encore plus saisir là, ce qu'on offre.
Les années de ma vie, mes plus grandes espérances, mes plus grands regrets aussi, comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi. Souviens-toi, c'était un jeudi, souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi si tu le comptes. Je l'ai vu près d'un rire, garder ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait cette peau fraîche, elle m'a dit, c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Et quand j'ai dit qu'avec elle, je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit. Elle m'a dit d'aller siffler là sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. Les matins se suivent et se ressemblent, quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble, ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien.
Est-ce que tu as testé les chansons en spectacle?
C'est comme ça que c'est arrivé. Ça n'a jamais été réfléchi comme album. Ça n'a jamais été une idée au préalable. Je vais même avouer que le côté country, c'est que pendant la pandémie, je me suis mis à écrire beaucoup de chansons pour un prochain album original. Et finalement, j'ai bifurqué, puis j'ai amené ce son-là dans l'idée de Dassin. Mais c'est parce que je faisais un medley ça, depuis un an sur ma tournée. Puis... Il se passait quelque chose, j'en entendais tellement parler. Ah, ton medley de Joe Dassin, c'est fou comment on a l'impression, tu sais, comme c'était fait pour chanter ça, puis je voyais le public chanter, puis s'amuser, sourire à pleines dents. Puis là, est venu l'idée, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas carrément un album? Je dis, OK, je vais le faire, mais je vais le faire à ma façon. Puis c'est là où j'ai voulu ramener toutes ces chansons d'Assin dans l'écrin de la vieille folk, ce qu'il aimait. Ses influences à lui. Lui, il est une influence, une grande influence pour moi. Mais je suis allé ramener ça dans ses influences à lui. Et c'est cette démarche-là que je trouvais le fun.
Mais est-ce que tu penses qu'avec l'album, ça veut dire qu'au-delà d'un medley dans un show, il peut y avoir plus, là, tu vas avoir des demandes spéciales, là?
Ben, C'est sûr que je vais en rajouter dans le show, mais je ferai pas un show Garou incarne Joe Dassin, je me trouverais un petit peu ridicule. Mais avec mon saut de blanc, là.
Laisse-moi y penser.
Mais ben, c'est ça, ouais, c'est finalement. Faut jamais dire jamais.
Et pour ce qui est de l'album de chansons originales, là, t'as dit j'ai mis ça de côté, mais ça s'en vient, c'est pour bientôt.
Ouais, sûrement l'année prochaine. Faut que je laisse passer du temps, mais en plus c'est beaucoup en concept avec un audiovisuel. Donc
qu'est-ce que tu veux
dire? Ben c'est un concept que je veux faire où ces chansons-là vont vivre dans une espèce d'aventure tournée. Et donc c'est un petit peu plus exhaustif comme projet, mais je vais absolument le faire. Ça va être un projet, je sais pas si on dit télé, web, on verra comment ça se diffuse là aujourd'hui.
Mais est-ce que c'est difficile d'amener du matériel nouveau? C'est-à-dire, l'industrie a beaucoup changé depuis les 10, 15, 20 dernières années là.
C'est très difficile, puis là c'est drôle, je parlais à des jeunes qui commencent leur carrière, puis ils disaient « Ah, toi, t'es chanceux parce que t'es déjà établi. » Je leur répondais « Aujourd'hui, c'est pas vraiment plus facile dans le sens... » Oui, évidemment, je suis chanceux à ce niveau-là, mais le premier effet de surprise peut marcher. Mais après ça, quand on a fait le tour, là, puis on a connu, t'es acquis, OK, non, il y a plus d'intérêt, là, tu sais. Mais donc, c'est vrai, d'un point de vue marketing, si je l'avais réfléchi, cet album-là, puis que ça avait été vraiment une stratégie, ça aurait pas été con. Mais c'est pas comme ça que c'est arrivé.
Non, mais c'est parce que je parle souvent, on en entrevue des chanteurs, puis des fois, ils se disent, on fait des trips comme ça parce qu'on a le goût de le faire, puis ça marche. Mm. Puis on arrive avec un truc original.
Nos nouvelles chansons.
On s'est défoncé pour le faire, puis ça n'a pas le même accueil.
C'est comme prendre une courbe dans une carrière. Quand tu décides de changer de son puis faire quelque chose de différent, ben la plupart du temps, le monde, non, ils veulent pas que toi, tu fasses ça. Ils vont vouloir que tu restes dans ta case.
C'est là qu'on te veut.
C'est là qu'on te veut, c'est comme ça. Puis la case, mais ce qui fait partie majoritairement de la case, c'est tes premières chansons. Tu sais, c'est celles qui ont fait les premiers. Ouais. C'est ça, le monde vient te voir pour ça. Moi, dans mon cas, c'est Belle sous le vent, seule, la rivière de notre enfance. Tu sais, ces tunes-là, c'est ça qu'ils veulent avoir. Je leur fais une nouvelle chanson, ils vont l'écouter, ils vont être là dans un mode spectacle, mais de les amener... Nouvel vent, bon, encore un nouvel album, lui.
Il me semble que tu fais pas beaucoup de spectacles au Québec.
Ben, ça fait très longtemps, en fait. Puis c'est honteux, mais c'est vrai que j'ai trop associé le Québec au retour à la maison. Donc, je travaillais pas beaucoup ici. Puis là, je suis vraiment heureux parce qu'à partir de janvier, on commence une belle tournée. Puis j'espère qu'elle va être longue parce que je suis vraiment content de revenir jouer ici.
Garou,
ce show-là est fait pour
ici. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Un vrai plaisir.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.